Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc ensemble dans nos lectures en liberté et je vous propose de démarrer cette semaine par la lecture d'un court roman de Charles Juliette, Lambeau. Je vais d'abord vous présenter un peu ce roman. Dans cet ouvrage, l'auteur a voulu célébrer ses deux mères, l'esselée et la vaillante, l'étouffée et la valeureuse, la jetée dans la fosse et la toute donnée. La première, celle qui lui a donné le jour, une paysanne, à la suite d'un amour malheureux, d'un mariage qui l'a déçu, puis de quatre maternités rapprochées, a sombré dans une profonde dépression. Hospitalisée un mois après la naissance de son dernier enfant, elle est morte 8 ans plus tard, dans d'atroces conditions. La seconde, mère d'une famille nombreuse, elle aussi paysanne, a recueilli cet enfant et l'a élevé comme s'il avait été son fils. Après avoir évoqué ces deux émouvantes figures, l'auteur relate succinctement son parcours, l'enfance paysanne, l'école d'enfants de troupe, puis les premières tentatives d'écriture. Ce faisant, il nous raconte la naissance à soi-même d'un homme qui, à la faveur d'un long cheminement, est parvenu à triompher de la détresse impensable dont il était prisonnier. Voilà pourquoi Lambeau est avant tout un livre d'espoir. Tu es l'aîné, et c'est toi qui t'occupes d'elle. Le plus souvent, la mère est dehors, dans les champs, à travailler avec le père. Toi, rivée à la maison, très tôt astreinte aux soins du ménage, aux multiples tâches liées à la vie de la ferme. L'hiver venu dans la petite usine d'un village proche, la mère est employée à monter des horloges, 4 kilomètres le matin et le soir, autant pour le retour. À pied, presque toujours dans le froid, le brouillard et la neige. Le bruit de la lourde porte en bois massif volontairement claquée à charge de te tirer du sommeil. Encore une demi-heure apparaissait, et combien tu la savoures. La chambre glaciale où règne encore la nuit, tes yeux grands ouverts et ta joie secrète à être seule, à écouter le silence, à jouir de ce repos avant que ne commence la rude journée qui t'attend. En haut de la fenêtre, sur la pellicule de glace qui couvre les vitres, tu te plais à voir briller ces fines paillettes or qu'avivent les dernières étoiles. Tu rêves. Songe à ce que sera ta vie, cherche à imaginer ce monde dont tu souffres de ne rien savoir. La chaise est vide, près du lit. Les murs nus que tu commences à distinguer, les chiffons tassés contre le bas de la porte et des fenêtres, parfois le vent qui siffle, mugit, heurte les murs, fait claquer le volet d'une grange. À l'idée d'avoir à affronter le froid, tout ton être se rétracte. Ces secondes où tu luttes avec toi-même, t'exhortes, renonces, te houspilles. Puis les escaliers descendus en frissonnant, tes mains pétrissant tes épaules, la porte à peine poussée, le chien bondit, te fait fête et tu ne parviens pas à le calmer. Il est lourd, puissant, et quand tes bras ou ta poitrine ont à souffrir de ses griffes, tu le repousses en silence, d'un geste vite réprimé, soucieuse de ne pas mettre fin à sa joie. Tu t'habilles en hâte. Allume la cuisinière, prépare les déjeuners, tu es l'aîné. Et c'est toi qui leur sers de mère. Rolande, Régine, André, plus jeune que toi de 2, 3 et 5 ans. À l'heure fixée, tu les appelles, elles descendent, et rien ne t'émeut plus que de les voir apparaître l'une après l'autre, à moitié endormies, les cheveux emmêlés se frottant les yeux du revers de la main. La journée commence et jusqu'à l'instant de gagner ta chambre, tu n'auras aucun répit. Le ménage, les repas, les vaisselles, le linge à laver et repasser, l'eau à aller chercher pour vous et parfois les bêtes, les lourds bidons de lait à porter à la fruitière, les lapins, la volaille, les cochons. De surcroît, au printemps et en été, tu entretiens le jardin, ramasses les légumes. En hiver, tu fends le bois, dois balayer et pelleter la neige. Le soir, après un rapide repas le plus souvent pris debout, tu te penches sur leurs devoirs, leur fais réciter leurs leçons. Puis elles montent se coucher. Mais pour toi, la journée n'est pas encore finie. Une règle jamais énoncée, mais à laquelle aucune de vous dans le village n'oserait se soustraire, veut que les femmes ne restent jamais inoccupées. Le travail. Le travail. L'ancestrale, la millénaire obsession de la survie, le besoin farouche de faire reculer la misère, d'enrichir, si peu que ce soit, le maigre avoir qu'on possède. Tandis que le père tassé sur sa chaise, face à la cheminée, laisse couler les heures en tirant sur sa pipe, tu aides la mère à couper des betteraves, préparer du petit bois et écosser des fèves ou trier des lentilles. Après quoi, il faut encore tricoter ou repriser. Tu es l'aîné. Tu leur as servi de mère. Et très tôt, dans ton âge, alors que tu n'as pas encore quitté l'école, cette lourdeur par tout le corps au long des journées, la nécessité où tu es de te harceler pour venir à bout de ce que tu entreprends, cette sorte de vague malaise qui te rend plus lente, moins efficace, t'empêche de prendre plaisir à ce que tu fais. Quand vient le moment d'aller dormir, tu peines à gravir les marches. Parfois, tu n'as pas la force de te glisser dans ton lit et tu restes là, les yeux dans le vide, affalé sur ta chaise. Tu leur as servi de mère, tu t'es employé à leur donner ce que tu ne recevais pas et au fil des jours, des saisons, des années, pour seule fidèle compagne, la fatigue. La fatigue. La fatigue. Un homme doux. Bourru, méditatif, aux yeux bleu pâle, bon et malicieux, cerclé de petites lunettes rondes. Avec une ample barbe grise, une épaisse tignasse blanche, aux longues mèches rebelles qui lui tombent sur le front et qu'à tout moment, d'un geste machinal, il repousse en arrière. Il te paraît ineffablement vieux. Les matins d'hiver, il prend sa chaise et vient s'installer près du poêle. Aussitôt, vous l'imitez, vous disposant en cercle, genou contre genou. Le poêle ronfle, le bois qui brûle sent bon. Tu peux voir par la fenêtre les fines branches nues des bouleaux osciller dans le vent et tu t'abandonnes à cette quiétude, t'enivres du bien-être qui naît de cette chaleur et de cette intimité. Il s'exprime avec lenteur, d'une voix grave et basse, attentif à ce qu'il lit sur vos visages. Tu l'écoutes avec une concentration si totale que ses paroles se gravent dans la mémoire et que la leçon qu'il fait, tu n'auras pas à l'apprendre. Combien tu aimes l'école ? Chaque fois que tu pousses la petite porte de fer et t'avances dans la cour, tu pénètres dans un autre monde. Deviens une autre petite fille et instantanément, tu oublies tout du village et de la ferme. Ce qui constitue ton univers, le maître, les cahiers et les livres, le tableau noir, l'odeur de la craie, la carte de géographie, ton plumier, ton cartable, cette blouse noire trop longue que tu ne portes que les jours de classe, tu le vénères. Et la veille des grandes vacances, alors que les autres, au comble de l'excitation, crient, chantent et chahutent, tu quittes l'école en pleurant. Les deux dernières années, quand venait ton tour d'être interrogé, il renonçait à vérifier si tu savais ta leçon, t'attribuait d'office la meilleure note. Ton sérieux, ta maturité et ta soif d'apprendre l'avaient impressionné. Et bien qu'il ne t'eût jamais rien dit de ce qu'il pensait de toi, tu sentais qu'il te voyait comme un petit phénomène et te tenait en particulière estime. Un jour, bien plus tard, alors que, prise de nostalgie, tu revivais les heures avides et enchantées que tu avais connues là, dans cette petite salle de classe, à littéralement boire ses paroles, tu oses t'avouer que tu avais fini par le considérer comme un père. Un père que tu as aimé, ainsi qu'on aime à cet âge, d'un amour entier, violent, absolu. La veille des vacances, tu quittais l'école en pleurant, moqué par tes camarades, mais prisonnière de ton chagrin, tu avançais parmi eux en aveugle, hébété, ne percevant rien de ce qui t'entourait. Puis, il y eut ce matin inoubliable. Aux côtés de Geneviève, ta meilleure amie, et de Paul, le second fils du charpentier, tu prends place à l'arrière d'une carriole. Tous trois, assis sur une couverture pliée en huit, le dos appuyé à un ballot de foin, les pieds calés contre un petit sac d'avoine. Sur la banquette se tiennent l'instituteur et un paysan du village. Quand le lourd percheron se met en branle, le soleil n'a pas encore paru, il fait froid et tu grelottes. Mais tu n'en as cure. Tu es si prodigieusement excité. 30 kilomètres. Tout un voyage, toute une expédition, et tu vas découvrir la ville. Durant le trajet, dans la crainte de ne plus rien savoir et de piteusement échouer, tu t'efforces de faire taire cette excitation, rassembler tes esprits, ressusciter dans ta mémoire quelques bribes de connaissances. Tout est si beau, si étonnamment intéressant.
Si je porte à mon cou en souvenir de toi, ce souvenir de soi qui se souvient de nous, ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux. C'est qu'encore une fois, j'ai voulu comme un fou me souvenir de toi, de tes doigts sur mon cou, me souvenir de nous quand on se disait vous. Si je porte à mon cou en souvenir de toi ce sourire de soi qui sourit comme nous sourions autrefois quand on se disait vous, en regardant le soir tomber sur nos genoux. C'est qu'encore une fois j'ai voulu revoir comment tombe le soir quand on s'aime à genoux. Si je porte à mon cou en souvenir de toi ce soupir de soi qui soupire après nous. Ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi. C'est qu'il y a toujours l'empreinte sur mon cou, l'empreinte de tes doigts qui se mouillent, l'empreinte de ce jour où les doigts se délient. Si je porte à mon cou, en souvenir de toi, cette écharpe de soie que tu portais chez nous, ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi. Ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Charles Juliette, Lambeau. Mais le voyage prend fin trop vite. Tu te retrouves à une petite table, la tête vide, le cœur battant, puis le temps court, les heures s'enchaînent et déjà l'après-midi s'achève. Maîtres et élèves, vous vous réunissez dans une salle de vaste dimension où règne un intense brouhaha et une chaleur étouffante. Des parents vous rejoignent. On exige le silence. Et les résultats sont proclamés. Après quoi, ton maître te demande de grimper sur l'estrade et de te tenir bien droite face à l'assistance. Un homme à barbiche et à lunettes fort imposant commence une courte allocution. Quand tous les regards convergent sur toi, que tu entends que tu es la première du canton avec une moyenne encore jamais enregistrée, qu'ils te félicitent, tu te mets à trembler et dois prendre violemment sur toi-même pour contenir ton émotion. Il explique encore que tu es remarquablement doué et qu'il faut regretter que le lycée de cette ville ne puisse à la rentrée prochaine te compter parmi ses élèves. C'est alors que tu ne peux plus te cacher ce que jusque-là tu as obstinément refusé de voir. Tu vas quitter l'école pour ne plus jamais revenir. Pour ne plus jamais rencontrer celui dont tu as tant reçu. Ne plus jamais passionnément t'adonner à l'étude. Et ce monde que tu vénères, ce monde des cahiers et des livres, ce monde auquel tu donnes le plus ardent de toi-même, ce monde va soudain ne plus exister. Tes muscles se raidissent, tes mains se nouent âprement dans ton dos. Mais tu ne peux rien faire contre ce sentiment d'effondrement qui te submerge. Et à ta grande honte, deux lentes traînées brillantes apparaissent sur tes joues. À ton retour de la ville, au terme de cette journée que tu n'oublieras plus, le père et la mère ne t'ont pas félicité. S'ils ont été heureux de ta réussite, ils ne t'en ont rien dit. Tu as toujours perçu qu'ils étaient secrètement hostiles au maître et considéraient l'école d'un mauvais œil. Sans doute estimait-il que là-bas tu leur échappais, que le temps que tu y passais aurait pu être mieux employé. La nuit était venue et ton couvert t'attendait, mais tu n'as rien pu absorber. Sans leur dire bonsoir, tu te réfugies dans ta chambre, t'assois de biais sur le rebord de la fenêtre, l'odeur du foin mêlée à la touffeur de la nuit. Elles jouent dans la cour de l'autre côté de la maison et leurs cris et leurs rires ajoutent à ta détresse. Un troupeau est au loin, peut-être près du bois de Maljovert, et de temps à autre te parvient le tintement assourdi d'une cloche. La tension tombe qui t'a possédé tout le jour et bizarrement, il s'installe en toi un grand calme. ne plus retourner à l'école, ne plus revoir ton maître, devoir renoncer aux cahiers et aux livres. Quand l'inspecteur a déploré que tu ne puisses entreprendre des études, l'entêtante odeur du foin dans la chaude et paisible nuit d'été. Pour la première fois, il te vient le désir de mourir. Combien étranges les semaines qui ont suivi, d'abord ces lourdes journées d'été, torpides, interminables. Au lieu de livrer sa lumière et d'entretenir la vie, le soleil assomme, ne répand que mort et ténèbres. Chaque matin, quand tu t'éveilles, son visage est là. Avec sa barbe, ses cheveux blancs en bataille, son regard doux et malicieux. Tu lui parles et tu lui demandes de continuer à te donner des leçons, le supplie de te laisser revenir à la rentrée prochaine. Tu as le désir d'apprendre, de garder contact avec ce monde des livres dont tu te sens exclu. Comment pourrait-il ne pas accepter ? Et aussi lui dire que tu souffres. Il faut qu'il te vienne en aide, qu'il trouve une solution à prendre. Dans l'unique but de savoir parler, connaître le plus possible de mots et savoir dire aux autres ce qu'on est, ce qu'on ressent, comment on voit les choses. Ces phrases qui s'écoulaient de ses lèvres, simples, aisées, passionnantes, et qui bien souvent exprimaient exactement ce que tu souhaitais entendre. Un jour, savoir parler aussi bien qu'il parle, tu travailles avec rage, convaincu que ta fatigue finira par user ta souffrance. Mais tu crains que les petites ne pressentent que tu n'es plus comme avant, et le visage clos, la parole bref, tu t'appliques à ne rien laisser paraître. Un jour, posséder les mots. Savoir dire ce que tu éprouves, savoir parler aussi bien qu'il parle, semaine après semaine, tu t'éloignes de l'enfant que tu fus, de ce temps où vivre n'était qu'insouciance, crédulité, confiance, bonheur d'appartenir sans réserve à l'instant. Le char de foin est maintenant dans la grange. L'orage menace et la nuit descend. La cour déserte. Tu es assise sur le tronc d'un chêne couché là. La plus jeune est sur tes genoux et se fait câliner. Les 5 vaches que le père a lâchées dans l'enclos voisin viennent auprès de vous et, harcelées par les mouches et les temps, se frottent vigoureusement le cou sur le bord des dalles fichées en terre qui les séparent de la cour. Tu es fatiguée et restes silencieuse. D'un mouvement du buste, la petite s'écarte, effleure tes lèvres du bout des doigts et, te fixant dans les yeux, te demande pourquoi tu es toujours triste. La veille de la rentrée, tu prépares ton cartable en cachette. Le lendemain matin, avant qu'elle ne descende, tu cours te cacher dans le bosquet qui s'élève à proximité du préau. Plus d'une heure après, tu les vois arriver un par un ou par petits groupes. Les petites se tiennent sagement par la main et avancent sans parler. Tu te reproches de n'être pas passé le voir quelques jours plus tôt pour lui demander s'il serait possible que tu prolonges ta scolarité. L'idée t'en est venue, mais tu n'as pas osé aller frapper à sa porte. Ni cri, ni rire. Leur voix comme un murmure avec parfois un mot qui se détache. Ton cœur bat. Le sang frappe à tes tempes et tu souhaites éperdument qu'ils viennent te chercher. La cloche, le bruit mat des sabots gravissant les marches, le silence qui s'installe, tu crois entendre des pas. Si violent est ton désir que tu ne doutes pas de le voir apparaître. Les minutes qui s'écoulent, cette déception, quand il te faut admettre qu'il ne viendra pas, et la honte et la peur qui t'envahissent lorsque tu découvres que ce n'était là que folie, tu t'enfuis, ton cartable plaqué contre ta poitrine. C'est la première fois que tu as fait quelque chose que tu réprouves, la première fois que tu vas devoir mentir. En franchissant le pont, tu jettes rageusement ton cartable dans la rivière. Tu ne songes même pas à ce qui t'attend à la maison, accablé par cette évidence que jamais plus tu ne seras une écolière. Puis l'automne, puis l'hiver, l'enfouissement sous la neige, les lentes journées semblables, le temps comme une inexorable agonie. Gagné par le sommeil de la nature, tu doutes que la neige puisse un jour fondre, le printemps revenir, la vie réapparaître. Passent les mois, les saisons, arrachement, rupture, métamorphose. L'eau qui coule de la fontaine, un regard échangé avec un garçon, le rire ou les sanglots de la petite, le être qui se dresse au bas du pré, le mutisme du père, un veau qui vient de naître. Tout t'étonne, te trouble, t'émeut ou te blesse, entretient en toi un permanent tumulte. Tu ne possèdes aucun livre, n'as rien à quoi appliquer ton esprit, et tu comprends que le seul savoir que tu puisses acquérir, tu dois le tirer de ce qui t'entoure, des quelques rares personnes avec lesquelles tu te trouves en contact. Aussi ton œil s'exerce-t-il à bien observer, à sonder les regards et déchiffrer les visages. Tu apprends à connaître tes jeunes sœurs, le père et la mère, vos voisins, quelques amis. Tu découvres ce que sont vos rapports à l'intérieur de la famille, ce qui constitue la vie du village, de quoi est tissée l'existence de chacun. Et puis les bêtes, l'eau, les arbres, les saisons, la nature tout entière. Des illusions. Effroi, révolte, accablement, silencieux enthousiasme. Ce que tu vois et entends, ta mémoire infaillible l'enregistre, et avant de t'endormir, tu le reprends, l'interroges, et les conclusions que tu en tires, tu t'emploies à bien les dégager, puis à te les formuler à toi-même. Ensuite, tu les engranges, afin de pouvoir en disposer chaque fois que tu en éprouveras le besoin. Mais tout est si compliqué, étrange, inextricable. Bien souvent, tu t'endors avant d'avoir rien pu décider. Un fouillis de questions te harcèle qui, à chaque assaut, te fait vaciller. Un soir d'été, tu t'échappes en cachette avec une couverture sous le bras. Tu déplies celle-ci au milieu du pré, t'étends sur le dos et passes la nuit à contempler ce ciel où frémissent des millions d'étoiles. Tu interroges, scrutes, demeures longtemps dans une stupeur émerveillée. Puis soudain la foudroyante conscience que tu n'es rien, qu'un être humain n'est rien, que ta vie n'a pas plus d'importance que ces brins d'herbe pris entre tes doigts. Grelottante, déprimée, tu regagnes ton lit, quand le jour se lève, te demandant si l'on peut continuer de vivre quand on se trouve aux prises avec pareille révélation. Voilà donc pour ce soir, donc, ce début du texte de Charles-Juliette Lambeau, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.